France Info. 20h-21h, les informés, Philippe Duport.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Caroline Mécari, avocate spécialisée en droit de la famille. Bonsoir.
Bonsoir.
François-Xavier Bellamy, professeur de philo, adjoint au maire de Versailles. Bonsoir.
Bonsoir.
Robin Rivaton, membre du think tank Fondapol. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonsoir.
Bonsoir.
Au menu des Informés, mais ce soir, la gestation pour autrui. Est-ce qu'on vient de vivre aujourd'hui une journée décisive sur cette question qui embarrasse les politiques? Le sketch de Nicolas Sarkozy sur la fuite des migrants? La fête de la musique est-elle une marque de bonne santé de la société française ou bien l'inverse? Mais pour l'instant, dans Les Informés, c'est l'heure de notre premier débat.
20h-21h, Les Informés, Philippe Duport.
C'est un nouveau drame terrible qui s'est produit hier soir sur les lieux de tournage d'une émission de télévision. Une fillette de 12 ans décédée après une chute de plusieurs dizaines de mètres. Elle répétait un numéro de voltige chorégraphié. Elle devait danser encordée autour du Cap Ferret. L'émission n'était pas un jeu télévisé sportif ou extrême, mais une émission familiale, culturelle, le monument préféré des Français, présenté par Stéphane Bern sur France 2. Alors naturellement, on ne peut pas ne pas penser à l'accident survenu en mars dernier en Argentine sur le tournage de Dropped, un jeu diffusé par TF1. 10 personnes avaient trouvé la mort dans le crash de 2 hélicoptères, dont plusieurs sportifs de haut niveau. On ne peut pas non plus ne pas évoquer le décès d'un candidat de Koh-Lanta au cours du jeu en 2013. Pour Gérard Lacroix, président de Morgane, la société qui produit l'émission, le numéro ne présentait pas a priori de danger particulier.
On les engage sur leurs références ou sur les... Mais en l'occurrence, là, on leur demandait simplement de faire ce qu'ils font habituellement. Ils ce qu'ils ont accepté avec naturel et simplicité, quoi. C'était, il n'y avait pas de demande. Je dirais que s'ils l'avaient pas fait, ça n'aurait pas été essentiel au programme.
Voilà, Gérard Lacroix, président de Morgane Productions, au micro France Info de Raphaël Duchemin. On entend l'émotion, François-Xavier Bellamy, dans la voix du producteur de cette émission. Le téléspectateur qui ne peut plus se passer de sensations fortes, ou bien c'est la télé qui veut toujours aller plus loin, François-Xavier Bellamy, au détriment de la sécurité?
C'est difficile de tirer une conclusion générale de ce qui vient de se produire parce que les événements que vous avez rappelés, à chaque fois tragiques, sont en même temps marqués par le fait qu'ils sont extrêmement différents les uns des autres. L'accident de Dropped situé en dehors du tournage, c'est un accident d'hélicoptère qui n'a pas grand-chose à voir avec l'émission en elle-même. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes ici confrontés à une expérience effectivement terriblement douloureuse, et on peut penser ici à l'épreuve qui doit être celle de ses parents qui ont vu leur fille disparaître dans le spectacle qu'ils organisaient eux-mêmes. Maintenant, on ne peut qu'attendre l'enquête pour savoir si les risques qu'il a été fait prendre à cette jeune fille étaient excessifs et s'ils étaient motivés peut-être effectivement par une attente particulière de la production, auquel cas effectivement on serait devant un cas particulièrement condamnable de course à l'audience.
On peut tout de même se poser la question, est-ce que c'est pas un certain type de télévision, Jérôme Béglé, qui déteint sur toute la télévision en général, un certain type de télévision qui court l'image spectaculaire qui déteint sur toute la télévision?
Il y a, dans les programmes de télévision, il faut quand même distinguer deux cas. On vous demande parfois de faire un spectacle extraordinaire, une chose dont vous n'avez pas l'habitude, on vous pousse dans vos retranchements. C'est le cas de Koh-Lanta, c'est le cas de Dropped. Et effectivement, peut-être qu'on va trop loin, que le téléspectateur en veut toujours plus, que le producteur est tenté de vous pousser encore plus loin. Peut-être que les conditions de sécurité sont à revoir. Bon, là, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement ça s'est passé il y a quelques heures et tout n'est pas encore bien fixé, cet enfant faisait partie d'une troupe, appelons-la comme ça, elle avait l'habitude, entre guillemets, de faire ce genre d'expérience ou ce genre d'exploit, de voltige. Il y avait également son père qui participait à ce spectacle. Mmh. Elle l'avait fait, elle aurait pu le faire dans le cadre, je ne sais pas, d'une kermesse, d'une fête de village.
Oui, ça rappelle un numéro de cirque.
Voilà, on ne lui a pas demandé d'aller plus loin. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et évidemment, dans ces sports extrêmes, entre guillemets, ou ces expériences extrêmes, il y a des risques. Mais je ne crois pas que ce soit un risque qui ait été amplifié, généré par la télévision. Donc, n'accablons pas
France Télévisions. Faut pas tirer sur la télévision trop rapidement.
Surtout que moi, cette émission, enfin, j'avais déjà vu Le Plus Beau Village de France. C'est vraiment des émissions qui sont au-dessus de tout soupçon.
C'est le prototype de l'émission familiale et du tout.
Voilà, voilà. On n'a pas dit à la fille, tu sais pas le faire, fais-le quand même.
C'est pour ça qu'on s'étonne que ce type d'accident survienne au cours de ce type d'émission, Robin Rivaton.
Bah, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'il n'y avait pas de lien marchand, puisque c'est une association qui faisait ça. Ce sont des gens qui faisaient ça à titre, je ne sais pas si c'était bénévole, mais en tout cas dans une activité associative, c'était pas leur activité professionnelle. Et ils développaient ça du côté de Bordeaux, et c'est des gens qui avaient fait ça depuis plusieurs fois et qui avaient même répété sur ce site du Cap Ferret plusieurs fois. Par contre, la question, quand on dit qu'on cherche de l'audience, qu'on cherche de l'audimat, les suites de la façon dont c'est traité aujourd'hui cherchent de l'audimat. Quand on dit qu'il y a des zones d'ombre dans l'enquête, quand on cherchait à faire parler la procureure sur l'enquête, la sous-préfète, en essayant de faire gonfler comme si on avait l'impression de faire gonfler le fait divers, je suis désolé, mais là aussi, il y a une recherche de l'audimat. Là aussi, les médias devraient s'interroger pour savoir pourquoi traiter autant ce fait divers, qui est un fait divers extrêmement malheureux. Il faudrait plutôt respecter la famille et ne pas essayer de tirer une bobine, de tirer un fil sur quelque chose qui reste un fait divers lié à la sécurité de l'installation.
On peut se demander tout de même ce que cette jeune fille de 12 ans faisait au sommet, et là je me tourne vers vous, Caroline Mécari, en tant qu'avocate, faisait au sommet d'un phare de près de 50 mètres de haut. Est-ce que tout ça est bien légal ?
Écoutez, je n'ai pas l'impression des éléments que nous avons, parce que nous n'avons finalement pas énormément d'éléments, mais qu'il y ait eu quelque chose d'illégal dans le fait que cette jeune fille ait participé à ce qui allait être en fait une espèce de prestation dans le cadre d'une émission dont on a rappelé qu'il s'agit d'une émission effectivement très familiale. Je ne vois pas d'indication ou de contre-indication à son intervention, puisque... voilà quoi.
Mais en tant que téléspectatrice, est-ce que vous avez l'impression que la télé, c'est forcément désormais du cirque ?
Alors, écoutez, moi, j'ai plutôt envie de vous dire que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la télévision, c'est en quelque sorte une espèce de sport dangereux, qui est peut-être dangereux pour l'âme et qui parfois est dangereux pour les corps, comme dans ce tragique accident qui est arrivé. Donc, voilà.
C'est inhérent à la pratique de la télévision ?
C'est peu. Alors. Est-ce que c'est inhérent à la pratique de la télévision ? Oui, d'une certaine manière, parce que nous savons bien tous ici qu'il y a une nécessité d'avoir de l'audience et que pour avoir de l'audience, il faut toujours trouver des spectacles qui soient de plus en plus sensationnels.
C'est ça.
Voilà, c'est vraiment cette course-là. Et à ce titre, les médias peuvent avoir aussi une réflexion sur leur pratique. Devraient, en tout cas, avoir une réflexion sur leur pratique.
En tant que directeur adjoint du Point.
Je pense qu'on a les chaînes de télévision, les hommes politiques que l'on mérite. C'est-à-dire que c'est nous, téléspectateurs, dans notre ensemble, qui avons envie d'avoir des sensations fortes de l'autre côté de l'écran. C'est nous qui demandons des spectacles les plus importants, parce que quand on met des émissions de variété d'antan ou des fictions de prestige d'antan, elles ne marchent pas.
Alors, elles ne marchent pas.
Lorsqu'on met en face des programmes avec un peu plus, je dirais, de suspense, avec un peu plus de peur, avec un peu plus d'enjeu, tout d'un coup, on se précipite. Donc c'est un peu fort de café de dire ce sont les producteurs, ce sont les diffuseurs qui nous font aller plus loin, alors que c'est nous, téléspectateurs, qui recherchons ce genre de programme.
Et quand on voit le Tour de France,
je ne veux pas nous auto-flageller, mais on a quand même une petite part de responsabilité, ce serait un petit peu pas très bien de dire, oh là là, ils sont méchants et nous, on regarde Arte tous les soirs.
Il faut quand même mettre des images partout. Quand on voit la façon dont est tourné le Tour de France, par exemple, avec des drones, des images très très spectaculaires, il faut vraiment ça. François-Xavier Bellamy.
Mais cela étant dit, je me permettrai d'être en désaccord avec vous sur ce point. Je crois que c'est vrai qu'on voit évidemment que les productions et que les chaînes de télévision font tout pour mobiliser ce qu'il y a parfois de plus archaïque et de plus primaire dans notre propre instinct, c'est vrai, hein, une forme de voyeurisme, une forme d'intérêt instinctif pour ce qu'il y a de plus sensationnel, pour pouvoir mieux, d'une certaine façon, nous capter. C'est quand même un patron de grande chaîne de télévision privée qui déclarait que son métier était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et de ce point de vue-là, derrière ce
patron
terrible...
Patron de TF1 pour ne pas le nommer, monsieur Lelay.
Exactement, derrière ce terrible accident, je crois que vous avez tout à fait raison, madame Mécari, de dire qu'il faut réfléchir aussi à ce que la télévision, peut-être de manière plus silencieuse et de manière moins visible, détruit aussi d'âmes et de personnalité et de profondeur chez beaucoup de nos contemporains, non pas au sens où ils ne seraient pas complices de cette destruction qu'on leur inflige, mais au sens où malgré tout, elle est organisée pour pouvoir les tirer toujours vers ce qu'il y a de plus primaire et de plus bas chez eux.
Robin Rivaton, je vois dubitatif.
On a des gens qui sont sur un marché sur lequel il y a relativement de chaînes, il y a une offre, ils peuvent choisir leur programme de télévision. Comme on l'a dit, ils font des choix assez tranchés, assez clairs. Hein. C'est le succès de certaines séries américaines est là pour le montrer. Celles qui fonctionnent, c'est quand même les succès qui, effectivement, attisent sans doute ces bases instables. En tout cas, les gens le choisissent. Il y a une autorité de régulation qui fait son travail, quoi qu'on en dise. C'est un marché qui est régulé. On n'est pas sur un marché sauvage, livré aux quatre vents du capitalisme. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut revenir à une télévision publique dans laquelle on déciderait, avec une censure qui déciderait si c'est bien ou si c'est pas bien ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle qui est très largement suffisant.
On va poursuivre ce débat, mais pour l'heure, il est 20h15 sur France Info. Les titres, François Lepage.
Dylan Roof a reconnu devant la police être l'auteur de la pire tuerie raciste aux États-Unis depuis des décennies. Le jeune homme de 21 ans a été inculpé pour les assassinats de 9 personnes avant-hier dans une église afro-américaine de la ville. Premières explications à son geste en apparente nostalgie de l'apartheid et de la ségrégation. Les propos polémiques de Nicolas Sarkozy sur l'afflux de migrants en Europe, comparé par le président du Parti Les Républicains à une grosse fuite d'eau, François Hollande invite chacun à la maîtrise dans ses propos pour parler d'être humain. Ce soir, une centaine de migrants a investi un gymnase dans le nord de Paris. Plus de 200 avaient été évacués dans le calme ce matin dans un jardin du 18e arrondissement. L'enregistrement de l'émission télé Le Monument Préféré des Français sur France 2 pour le moment arrêté en Gironde. Plusieurs zones d'ombre subsistent sur les circonstances de la chute mortelle hier d'une fillette de 12 ans. On en sait plus ce soir sur la nouvelle journée d'action des taxis. Ce sera jeudi prochain, le 25. Les organisations appellent à des rassemblements devant les aéroports, les gares, les grandes villes de France pour protester contre les applications mobiles de type Uber Pop. On apprend ce soir qu'un chauffeur Uber Pop a été interpellé par la police cet après-midi à Paris, près de la gare de Lyon. Il est placé en garde à vue.
France Info. 20h-21h, les informés. Philippe Duport.
Les informés de France Info avec ce soir Caroline Mécari, avocate, François-Xavier Bellamy, prof de philo, adjoint au maire de Versailles, Jérôme Béglé du Point et Robin Rivaton du think tank Fondapol. La métaphore de la fuite d'eau, c'est peu dire, de Nicolas Sarkozy provoque une cascade de réactions. Dans un meeting de son parti dans le Val d'Oise, l'ancien président de la République a comparé l'afflux de migrants à une fuite d'eau et Bruxelles à un pompier. Nicolas Sarkozy en version originale.
C'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit « j'ai une solution ». On va garder la moitié pour la cuisine. On va mettre un quart dans le salon, l'autre quart dans la chambre des parents, et si ça suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants.
Dans un déplacement en Slovaquie, François Hollande a sévèrement taclé le président de Les Républicains. Quand il s'agit de personnes, d'êtres humains, il faut les évoquer avec gravité et donc avec maîtrise, a-t-il lâché au cours de sa conférence de presse. Plus tôt dans la journée, c'est un membre du gouvernement, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui ouvrait le feu. Jean-Marie Le Guen.
Les Français comprennent très bien la situation et les défis des migrations. Il n'y a pas besoin d'avoir accès à ce type de pédagogie vulgaire pour que les Français comprennent. La vulgarité n'est pas une bonne façon de faire de la pédagogie. Et c'est un manque de respect pour les Français.
Voilà Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Alors, on a vu beaucoup récemment Nicolas Sarkozy dans le registre de l'humour, notamment quand il a appelé François Hollande « Monsieur Moi-Je ». Maintenant, avec le sketch de la fuite d'eau, comme dit Bruno Leroux, le chef de file des députés PS, c'est un registre qui lui va bien, d'après vous, Robin Rivaton ?
Non, ses propos sont extrêmement, beaucoup plus que maladroits, extrêmement graves, et je pense que on ne peut absolument pas les cautionner, surtout connaissant la capacité de communication et la capacité à la connaissance du jeu politique de ces acteurs, on peut difficilement croire qu'ils sont une simple erreur, surtout que ces choses-là sont préparées, ils sont très graves, ce qui il n'empêche.
Vous dites, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est préparé.
Non, c'est réfléchi, en tout cas, on ne peut pas non plus dire que ça sort spontanément, il y a quand même un contrôle de soi, une maîtrise de soi en politique qui sont suffisamment forts pour s'astreindre à éviter de tels propos. La question, c'est le fond qu'il y a derrière. Cette remarque de forme n'enlève pas tout le problème de fond qu'il y a derrière et qui est très grave.
Caroline Mécari.
Alors écoutez, je trouve que, enfin pour les gens polis, le propos de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment de l'incontinence démagogique. Et même avec une couche ultra absorbante...
Le propos de fuite d'eau, c'est
oui,
un propos...
Non, même avec une couche ultra absorbante, il y a encore des fuites. Je veux dire par là que Nicolas Sarkozy, on le connaît vulgaire, on le connaît graveleux... Il maîtrise parfaitement en réalité ce qu'il dit, et ça s'inscrit totalement dans une stratégie politique, puisqu'il court après le Front National
aujourd'hui.
Pour
vous, c'est pas un dérapage.
Ce n'est pas un dérapage. Pour moi, c'est très clairement de la stratégie politique. Il court après les électeurs du Front National, sans doute avec en arrière-plan l'idée des primaires, à savoir si les primaires sont ouvertes, il veut pouvoir amener les électeurs du Front National à voter pour lui et mettre en difficulté ses adversaires. Voilà, je pense que ça s'inscrit totalement dans cette stratégie-là. Après, sur la question du fond, véritablement, il est tout à fait inadmissible qu'un ancien président de la République s'exprime À propos de la question de l'accueil de migrants dans le cadre du droit d'asile tel que cela a été proposé par l'Union européenne, je rappelle que l'Union européenne a proposé d'accueillir sur 2 ans 40 000 migrants éligibles au droit d'asile et de les répartir sur l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, 20 000 par an. Voilà. Et donc de les répartir en fonction de la population. Alors est-ce que la France, on est 65 millions d'habitants, est-ce qu'on ne peut pas prendre une petite part de ces migrants qui fuient des pays comme la Syrie, comme l'Érythrée, comme la Somalie, où la situation est absolument catastrophique et où nous ne sommes pas pour rien non plus dans ce qui se passe là-bas.
Mais sur le fond, pourquoi il n'aurait pas le droit de s'exprimer là-dessus?
Je me suis mal exprimé. Oui, il peut s'exprimer, non, il peut parfaitement s'exprimer là-dessus, mais la question de fond, justement, c'est bien la question de l'accueil des migrants. Justement. Et de faire une répartition de ces migrants sur l'ensemble du territoire européen. Et la France doit y prendre sa part.
D'accord. Jérôme Béglé,
pas toute, mais sa part.
Dérapage, humour, ça rappelle sous quelque forme le registre de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous voyez également ce lien de parenté?
Nicolas Sarkozy a dit exactement la même chose que ce matin sur France Inter, Robert Badinter. La France n'est pas en condition d'accueillir les migrants qui viendront. C'est Robert Badinter ce matin. Et les conditions, il l'a expliqué plus tôt dans l'interview, c'est le chômage. Bon. Nicolas Sarkozy, quand il parle de cette image-là, c'est pas une chosification des migrants, des immigrés, des gens qui arrivent. Ça s'appelle une image, c'est une comparaison.
On en fait trop.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement une fuite. Il y a des gens qui fuient des pays africains, mais pas seulement africains, parce qu'on sait aussi qu'il y a un deuxième canal qui est en train de se former de l'Europe centrale, qui arrive massivement en Allemagne, puis en France et peut-être en Angleterre. Et que c'est pas une solution que de mettre des barrières à la frontière, et c'est pas une solution de dire, il y en a plusieurs milliers qui arrivent tous les jours sur les côtes italiennes, on va en mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, pour que la chose soit moins efficace. Donc, puisqu'il y a des gens qui fuient, c'est qu'il y a une fuite. Et cette fuite, il faudra la juguler, il faut la colmater du départ. Alors, le départ, il y a deux sortes de départ. Il y a les gens qui quittent en bateau les côtes du nord de l'Afrique, souvent de la Libye, mais il y a aussi ceux qui partent du sud de l'Afrique, qui quittent leur pays pour gagner la côte. Et c'est là que le drame se noue. Et c'est là qu'il faut faire quelque chose. Ça ne sert à rien de dire, il y en a qui viennent, on va en accueillir 20 000 par an. Mais 20 000 par an, c'est l'équivalent de 15 jours ou 3 semaines de gens qui arrivent en Europe. Donc 20 000 par an, on va avoir un problème quand même pour qu'est-ce qu'on fait des centaines de milliers d'autres. Donc il faut qu'on se mette autour d'une table, l'Europe, mais aussi les pays africains, subsahariens, d'où viennent ces gens, pour savoir comment on jugule ça. Ça n'est une positive pour personne, ni pour les pays que ces gens-là quittent, ni pour ces réfugiés, ni pour ces migrants qui sont de toute façon très maltraités. Là où ils iront, ils seront maltraités. Il y aura des problèmes de langue, il y aura des problèmes d'enracinement, il y aura des problèmes d'acclimatation. Et je ne suis pas offusqué par cette phrase de Nicolas Sarkozy. Encore une fois, ce n'est pas
une chosification.
Ce n'est pas une chosification, c'est une image. Et c'est la même chose que Robert Badinter ce matin. Et personne ne dit, mais Robert Badinter, c'est incroyable. Tout d'un coup, il dit qu'on ne peut pas les accueillir alors que pendant 50 ans, il a dit le contraire et qu'il a fait partie d'un gouvernement qui a massivement accueilli des étrangers. Là, les choses ont changé et le problème, il n'est pas du tout là. Il est à l'origine du mal, si j'ose dire.
On va y revenir, on va poursuivre ce débat, mais pour l'instant, il est 20h23. Les titres, François Lepage.
On en sait plus ce soir sur la nouvelle journée d'action des taxis, jeudi prochain, le 25. Les organisations appellent à des rassemblements dans les aéroports, les gares, les grandes villes de France pour protester contre les applications mobiles, notamment de type Uber Pop. Un chauffeur Uber Pop a été interpellé par la police cet après-midi à Paris, près de la gare de Lyon. Il a été placé en garde à vue. Plusieurs zones d'ombre encore sur les circonstances de la chute mortelle hier d'une fillette de 12 ans en Gironde, chute de plusieurs mètres du phare du Cap Ferret, alors qu'elle était encordée pour réaliser des voltiges, des répétitions. Pour l'émission télé Le Monument préféré des Français sur France 2, la chaîne a suspendu l'enregistrement du programme. Les propos de Nicolas Sarkozy sur l'afflux de migrants en Europe, comparés par le président du Parti des Républicains à une grosse fuite d'eau, François Hollande invite chacun à la maîtrise dans ses propos pour parler d'êtres humains. Ce soir, une centaine de migrants a investi un gymnase dans le nord de Paris. Plus de 200 avaient été évacués dans le calme ce matin dans un jardin du 18e arrondissement. Aux États-Unis, Dylan Roof a lui reconnu devant la police être l'auteur de la pire tuerie raciste aux États-Unis depuis des Le jeune homme de 21 ans a été inculpé pour les assassinats de 9 personnes avant-hier dans une église afro-américaine de la ville.
France Info. 20h-21h, les informés. Philippe Duport.
Les informés de France Info, on parle de la métaphore de la fuite d'eau de Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy cherche des thèmes qui le rapprochent du Front National? C'est Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, qui le dit aujourd'hui. Est-ce que c'est le début de sa stratégie pour 2017 auquel on assiste, François-Xavier Bellamy?
J'en sais rien, pardonnez-moi, mais la question est presque un peu dérisoire quand on voit l'ampleur du problème, quand on sait qu'il y a des milliers de gens qui meurent sur le trajet pour venir en France ou en Europe. On se dit quand même quelle tristesse que l'état du débat politique français aujourd'hui, quand on voit l'ampleur de ce problème-là et que on a le sentiment qu'effectivement les politiques ne cherchent qu'à s'assimiler des clientèles, à faire du marketing à coups de buzz et de petites phrases. On a parlé toute la journée de cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, mais où sont les vraies propositions de nos politiques, de la gauche, de la droite sur la question des migrations? Quelle est d'ailleurs la solution qui nous est proposée? Derrière cette petite phrase elle-même, on n'a pas non plus le début d'une solution. On a effectivement le constat d'échec d'une politique qui, vous l'avez dit à l'instant, est complètement décalée par rapport à la réalité et à l'ampleur du problème. Mais où est la vision et où sont les solutions? Et c'est vrai que ce qui est doublement triste, c'est d'abord de voir effectivement traiter avec une telle légèreté une réalité qui est tragique dans son principe, quand on sait qu'effectivement on parle de la vie et de la mort de ceux qui sont aujourd'hui tellement en danger dans leur propre pays.
Donc vous condamnez la forme, François-Xavier Bellamy.
Mais je trouve ça tellement décalé par rapport à la réalité du problème. Et je crois que les politiques devraient vivre cette situation et la question migratoire comme une forme de il n'y a pas d'autre mot, de tragédie morale. Ça veut dire que, oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme le disait Robert Badinter ce matin, mais en même temps, c'est une tragédie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir.
Mais une fois qu'on a dit ça, voilà. On n'a pas fait avancer.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir déjà une forme de gravité dans le débat qu'on ne retrouve pas dans une phrase comme celle-ci qui prend les choses. Et c'est tragique d'entendre la petite phrase et c'est tragique d'entendre les rires dans la salle.
Oui.
Enfin, moi, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur du problème. Et la deuxième chose, malgré tout, c'est que Nicolas Sarkozy a quand même rendu la parole à une gauche qu'on n'entendait plus sur la question des migrations. Ça fait très longtemps que tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui pour critiquer Nicolas Sarkozy, on n'a pas entendu une seule parole d'eux quand il s'est agi, par exemple, de parler de ce qui s'est passé encore à Paris récemment, avec la question des migrants qu'on ne cesse de déplacer d'un endroit à un autre de manière complètement absurde et contre-productive. On ne les a pas entendus non plus quand il s'agit de réagir à la proposition de l'Union européenne. Maintenant, il faudrait peut-être que nos politiques se montrent un peu plus à la hauteur des enjeux, à la fois dans leur gravité et en même temps dans leur complexité.
Robin Rivaton.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas critiquer cette phrase au fond. Au fond, il a raison de poser le sujet. On ne peut pas dire que c'est une course à l'extrême droite. C'est sûrement pas une course à l'extrême droite. C'est un problème qui est très fort dans la société française. Aujourd'hui, vous avez encore un sondage du Pew Research Institute du mois dernier sur la perception de différents migrants par la société française. La société française se classe, avec le Danemark, celle qui a le plus de problèmes. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, la forme est sans doute condamnable, le fond est quand même important de le dire. Et effectivement, ce qui est dommageable, c'est qu'on n'a aucune proposition derrière qui est faite, proposition concrète. Alors, la proposition de la Commission européenne, je suis désolé, effectivement, moi je ne pense pas à titre personnel que ce soit la bonne. Je pense que c'est une solution de très court terme, très court-termiste, qui répond à certaines pressions de communication, mais qui ne solutionne aucun problème. On le voit avec le cas du 18e arrondissement, puisque c'est dans le 18e arrondissement que ça se passe pour le coup depuis 3 semaines. Donc il faut absolument sortir de ça et faire des propositions assez fortes en allant à la source. Et là, aujourd'hui, il y a quand même des discussions qui avançait pour aller sanctionner les bateaux des passeurs. Et ça, je pense que c'est quand même le type de bonne solution qui va répondre à la source du problème.
Et Jérôme Meiglet, sur le fond, justement. Alors, je vous donne la parole tout de suite, Caroline Mécari.
J'ai entendu aussi, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin qui disait, voilà, ce serait bien qu'on les répartisse dans les zones rurales, parce qu'on a des départements qui dépeuplent, etc. Bon, là aussi, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit très... Ça me rappelle faire quelque chose. Vous savez, les enfants de la Creuse, dans les années 60-70 et jusqu'au début 80, sous l'égide de Michel Debré, on avait pris un certain nombre d'enfants qui étaient, pour certains, orphelins, mais pas tous, je crois, de la Réunion, et on les avait dispatchés, si j'ose dire, dans un certain nombre de départements ruraux français. Il y avait notamment la Creuse et le Gers. Bon, et puis on avait dit, vous allez voir, formidable, ils vont bien s'intégrer, et puis au moins ils seront pas perdus par la civilisation et par Paris. Bon, et puis 15 ans après, 20 ans après, les mômes étaient complètement paumés, ce qu'on veut bien croire. Bon, donc on va pas nous refaire le coup là. C'est vrai que il n'y a pas de solution où on se dit il faut le faire. La solution de Jean-Pierre Raffarin, elle est séduisante, mais enfin, il y a un précédent, on sait. Donc effectivement, nos politiques sont complètement dans le noir là-dessus, mais partout en Europe, je n'ai jamais entendu une phrase ou j'ai jamais entendu une proposition qui y soit. Qu'on puisse retenir. Donc on est tous face à une situation dont on ne comprend pas à la fois la gravité et surtout comment on va s'en dépatouiller. Mais c'est pas la peine de jeter à la figure des anathèmes et des insultes quand quelqu'un dit le problème, il est grave et il est gravissime et il y a une et sociologiquement, il peut être encore plus important que ce qu'on voit à la télévision et ce qu'on entend à la radio.
Caroline Mécari.
Non, mais simplement, le propos de Nicolas Sarkozy, c'est véritablement une instrumentalisation de la question migratoire, qui n'est pas une question simple, qui concerne en effet des gens qui fuient leur pays, mais ils ne le fuient pas parce que, par plaisir. Jamais personne ne fuit son pays par plaisir, c'est parce qu'ils y sont contraints, soit par des guerres, soit par des famines. Et effectivement, répondre à l'accueil de ces personnes sur le territoire européen n'est pas du tout simple.
Allez, il est 20h30 pile sur France Info. L'heure de retrouver le journal d'Armand Perouloga, bonsoir.
Bonsoir et peut-être du nouveau pour les enfants nés par GPA à l'étranger. Le procureur général a préconisé aujourd'hui une évolution de la législation. Il propose d'intégrer sous condition ces enfants sur l'état civil. C'est le 3 juillet que la Cour de cassation se prononcera. Laurent Doulsan.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation a rejeté tous les pourvois visant à transcrire sur l'état civil les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par GPA. Mais la jurisprudence pourrait évoluer si la haute juridiction suit l'avis du procureur général. Cet après-midi, Jean-Claude Marin a en effet proposé l'inscription à l'état civil de ses enfants, mais à une condition, que les pères se soumettent à un test établissant une filiation biologique. La justice française n'a pas vraiment d'autre choix que celui d'évoluer, puisque la France a été condamnée il y a un an par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour la CEDH, l'intérêt de l'enfant prime sur toute autre considération et le refus d'inscrire ceux qui sont nés par le biais de la GPA s'apparente à de la discrimination. Pour les deux pères qui ont porté l'affaire en cassation, mais aussi pour le défenseur des droits, la haute juridiction doit aller plus loin que ce que préconise le procureur général. Elle doit, selon eux, accepter une retranscription automatique des actes de naissance à l'étranger.
Toujours pas d'explication après ce dramatique accident hier soir au Cap Ferré en Gironde. Une fille de 12 ans a fait une chute mortelle alors qu'elle effectuait un numéro de voltige au phare. Chute de 30 mètres, c'était lors d'une séance de tournage pour l'émission Le Monument préféré des Français sur France 2. Le tournage est interrompu. L'enfant appartenait à la compagnie Adrénaline dirigée par son père qui était sur place au moment du drame. En état de choc, il n'a pas encore pu être interrogé. Les cordes, le matériel et les caméras ont été saisies pour l'enquête. La fin de l'enquête judiciaire sur la cellule djihadiste dite de Khan Torsi. 22 hommes sont mis en examen dans ce dossier, mais 3 sont en fuite. Certains sont soupçonnés d'un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles en septembre 2012. Un gymnase investi par des migrants clandestins ce soir dans le nord de Paris. Ils sont une centaine de sans-papiers, aidés par des associations. Ce matin, 200 migrants avaient été évacués d'un campement sauvage dans le 18e arrondissement de la capitale, au jardin d'Éole. Un chauffeur Uber Pop, interpellé par la police cet après-midi à Paris. C'était lors d'une opération de contrôle près de la gare de Lyon. L'homme a été placé en garde à vue pour activité illégale d'exploitant de taxi. Depuis le mois de mai, 150 dossiers de chauffeurs Uber Pop sont instruits devant les tribunaux. En France, certains ont déjà dû payer des amendes de plusieurs centaines d'euros. Toujours la mobilisation autour de la Grèce. Un nouveau sommet de l'Eurogroupe est prévu lundi prochain avant la date fatidique du 30 juin. Un défaut de paiement du pays reste possible, faute d'accord avec les créanciers. Et ce soir, chacun campe sur ses positions. Ce matin, le premier ministre grec Alexis Tsipras a affirmé que la sortie de la Grèce de la zone euro n'était pas une option. Et puis au Maroc, 4 mois de prison ferme pour un couple homosexuel. Ces deux hommes sont accusés de s'être embrassés en public début juin sur un site historique de Rabat. Au Maroc, l'homosexualité est passible d'une peine de 3 ans de prison. Philippe Duport.
Merci Armand Perouloga. On file à Météo France.
France Info Météo, avec Best Western, 300 hôtels de caractère, 3 et 4 étoiles, partout en France. Plus d'infos sur bestwestern.fr.
Jean-Michel Golinski.
Les régions du sud de la Loire et de Rhône-Alpes à la Méditerranée vont passer le week-end sous le soleil, avec demain toujours un peu de mistral et de tramontane. Également un risque d'ondées sur les Alpes, parfois un orage sur la Corse. Le tout va s'accompagner de températures confortables, souvent comprises entre 27 et 30 degrés. Mais plus au nord, le temps sera beaucoup plus mitigé et les températures souvent plus basses que les normales ce week-end, de l'ordre de 17 à 20 degrés près de la Manche et dans le quart nord-est, 22 à 24 sur le Val-de-Loire, l'intérieur de la Bretagne et le bassin parisien. Avec demain, beaucoup de gris dans le ciel du nord de la Loire, s'accompagnant d'un peu de pluie l'après-midi vers le nord de la Seine, la Lorraine et l'Alsace. Dimanche, l'ambiance sera quand même un peu plus ensoleillée. La semaine prochaine, les régions méridionales vont conserver des conditions estivales, mais plus haut, dès lundi, le gris va à nouveau s'installer au nord de la Loire, puis sur les trois quarts nord du pays à partir de mardi, en s'accompagnant de passages de pluie ou d'averses jusqu'en fin de semaine.
Rendez-vous France Info.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte. Puisque c'est le temps des cerises, je vous donne rendez-vous demain sur France Info dès 9h25 dans À Toute Saveur avec Philippe Conticini, un des plus grands chefs pâtissiers du monde. Il vient de sortir un livre consacré au dessert sans sucre ajouté. Il y aura du clafoutis, soyez là.
20h-21h, les informés, Philippe Duport.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Avec ce soir, Caroline Mécari, avocate, François-Xavier Bellamy, prof de philo, adjoint au maire de Versailles, Jérôme Béglé du Point et Robin Rivaton du think tank Fondapol. Alors, on va parler de la fête de la musique, puis on va voir si vos avis sont dissonants ou s'ils s'accordent. Mais pour l'instant, on va essayer d'y voir plus clair sur le débat sur la GPA et le pas important qui a été franchi aujourd'hui dans cette affaire. Peut-on inscrire à l'état civil français des enfants nés à l'étranger par le biais de la GPA, la gestation pour autrui, des enfants qui, s'ils sont nés en Russie par exemple, ont un passeport russe et que leurs parents ne parviennent pas à faire reconnaître comme français? La Cour de cassation se penchait aujourd'hui sur cette question. On connaîtra sa réponse définitive le 3 juillet, mais elle fait peu de doutes. Le procureur général de la Cour de cassation a recommandé à la Cour d'autoriser l'inscription des enfants à l'état civil français et donc de les sortir de cet état d'enfants fantômes de la République, comme disent les partisans de la reconnaissance. Avec une réserve toutefois, les pères devront passer un test de paternité. Sinon, ajoute le procureur général, ça reviendrait à une reconnaissance automatique de la GPA en France. Une demande inacceptable pour Dominique Borren, dont la demande d'inscription à l'état civil de son fils de 4 ans a été refusée par la cour d'appel de Rennes.
C'est juste inacceptable. Demande-t-on à un homme hétérosexuel de prouver sa paternité par un test ADN? Je pense que les autorités judiciaires de notre pays savent qu'ils ont des engagements à tenir et qu'ils ont l'obligation de respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on cherche par tout moyen à peut-être ne pas perdre la face, ce que je peux comprendre, et aussi à sortir des propres contradictions que nos magistrats et nos législateurs surtout ont bien entretenues et créées.
Voilà, Dominique Borren, dont la demande d'inscription à l'état civil de son fils a été refusée. Caroline Mécari, vous êtes avocate spécialisée dans ce type d'affaires. Pour qu'on comprenne bien, ça concerne la GPA et ce type d'adoption. Combien de personnes directement en France, couples hétérosexuels, homosexuels, combien de personnes, combien d'enfants?
Écoutez, on n'a pas de chiffres précis par définition. C'est quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, marginal. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a à peu près quelques centaines de couples français qui vont à l'étranger et qui ont recours à la gestation pour autrui. Donc, comparé aux 820 000 enfants qui naissent par an en France, c'est effectivement extrêmement marginal. Maintenant, au-delà de la question de la quantité, la question qui est posée aujourd'hui à la Cour de cassation, à savoir, doit-on transcrire automatiquement l'acte de naissance d'un enfant qui est né à l'étranger sur le registre de l'état civil français? Cette question, en réalité, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a déjà répondu. Elle a répondu dans deux arrêts qui ont été rendus au mois de juin 2014. Ce sont des arrêts définitifs, qui sont extrêmement clairs, qui sont d'application immédiate dans le droit français. Et donc,
elle a dit oui.
Elle a dit oui, absolument. Il faut transcrire les actes de naissance des enfants qui sont nés, y compris dans le cadre d'une gestation pour autrui, parce que la filiation est une question d'identité de l'enfant. Et que ne pas le faire, ce n'est pas respecter son droit à sa vie privée et à sa vie familiale. Et donc, si vous voulez, quand l'avocat général fait la proposition qu'il fait, qui est une proposition qui est une véritable usine à gaz en réalité, qui d'ailleurs ne réglerait pas toutes les situations. Pourquoi usine à gaz? Parce qu'il faudrait mettre en place des procédures pour pouvoir vérifier au travers de tests génétiques, parce qu'on ne peut pas faire n'importe comment des tests génétiques, on doit nécessairement poursuivre une procédure. Et ça ne réglerait pas toutes les situations, puisque parfois, pour des couples hétérosexuels, l'homme qui figure sur l'acte de naissance n'est pas le père biologique. Donc, le droit dit quoi? Il dit qu'un acte de naissance étranger qui a été dûment légalisé ou apostillé, il doit être reconnu dans l'État ou à, auquel on le demande, on lui demande d'être reconnu, tout simplement. Et c'est donc ça qui doit être, qui devrait être, en tout cas, décidé par la Cour de cassation, parce que l'avis de l'avocat général, ce n'est qu'un avis.
Il sera suivi.
Non, il ne sera pas suivi. Non, parce que ce qu'il propose.
Pas forcément.
Non, ce qu'il propose est une usine à gaz. La Cour de cassation ne regarde pas ce que dit l'avocat général.
Donc on n'en a pas fini avec cette histoire de GPA.
La Cour de cassation écoute ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit on transcrit sans condition. On transcrit sans condition. Et si la Cour de cassation ne suit pas l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien la France risque à nouveau d'être condamnée, tout simplement. Parce que ces enfants, ils sont là, ils ont un état civil, et cet état civil doit être reconnu.
C'est un sujet de société qui se joue là en ce moment dans les prétoires, et pourtant c'est un sujet qui embarrasse beaucoup les politiques. François-Xavier Bellamy, vous êtes philosophe, qu'est-ce que ça dit de la société française en ce moment, ce débat qui concerne, on l'a vu d'après Caroline Mécari, finalement relativement peu de monde.
Oui, mais c'est une question de principe, c'est pas une question, la justice n'est pas une question de nombre de personnes concernées par une décision. Je crois que ce qui se passe, c'est en réalité extrêmement grave d'un pur point de vue démocratique. C'est que nous entendons le gouvernement nous dire que la GPA n'a rien à voir avec notre culture juridique, que nous sommes opposés collectivement comme nation à une pratique qui consiste, il faut quand même le rappeler, à utiliser le corps d'une femme, à acheter une prestation auprès d'une femme pour qu'elle porte un enfant qui lui sera retiré à la naissance pour être ensuite emmené par deux parents hétérosexuels ou homosexuels. La question n'a rien à voir d'ailleurs de ce point de vue-là avec celle de l'homosexualité. Nous entendons nos politiques nous dire que nous sommes opposés à cette pratique. Et beaucoup de gens y sont opposés, ne serait-ce que parce que elle est profondément contraire à la fois à la dignité de la femme et aussi au droit fondamental de l'enfant. Et il y a quelque chose de très étrange à entendre parler ici du droit de l'enfant, quand précisément ce sont ceux qui ont d'abord violé ce droit qui revendiquent ensuite qu'il soit respecté. Or, que se passe-t-il ? Une décision judiciaire est en train d'interdire à notre propre majorité, à nos politiques, une décision judiciaire est en train d'empêcher les Français comme citoyens de s'exprimer et de faire valoir leur avis sur cette question qui est très profonde et qui est une question de principe très profonde. Parce que on veut nous faire croire qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme va nous obliger à accepter ce qui se fait à l'étranger dans le contournement explicite de notre propre loi. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, nous ne sommes plus en mesure de dire ce que nous considérons collectivement comme étant juste ou comme profondément injuste.
Alors Caroline Mécari,
franchement,
est en train
d'abord,
de bouillir.
Oui, non, je boue pas, mais simplement deux observations quand même. Vous dites que la majorité des Français est défavorable à la gestation pour autrui, ben vous vous trompez totalement, parce que les sondages d'opinion montrent que les Français sont tout à fait favorables à la gestation pour autrui.
Je dis que
mais,
c'est le gouvernement mais, nous dit mais, être opposé
non,
à cette pratique. Il n'a donc pas les moyens de s'y opposer.
Le gouvernement est opposé à cette pratique. D'ailleurs, cette pratique, qui est une pratique de procréation médicalement assistée reconnue par l'OMS, est interdite en France et elle demeure interdite. Et ce n'est pas parce que la Cour de cassation acceptera la transcription des actes de naissance qu'elle ne légalise pas la gestation pour autrui. Elle ne la légalise pas. Et d'ailleurs, dans les pays où elle est autorisée ou interdite,
ils sont nombreux.
Il y a énormément de pays avec des législations différentes. Prenez le Royaume-Uni, où elle est parfaitement autorisée, de manière tout à fait éthique, et non pas dans des conditions qui seraient inadmissibles, parce que personne ne souhaite exploiter quiconque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décision de la Cour de cassation sera une décision de justice, et qu'en revanche, si le gouvernement souhaite adopter une législation différente, il en a la possibilité. Pour ça, il doit déposer un projet de loi, ce qu'il n'a pas fait. Je rappellerai quand même que le seul parti politique qui a déposé un projet de loi favorable à la gestation pour autrui, c'est l'UMP. En janvier 2010, les sénateurs de l'UMP ont proposé de légaliser la gestation pour autrui. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'actualité politiquement. La seule question qui se pose, c'est comment on protège concrètement les enfants qui existent et qui sont là. C'est tout.
C'est un débat politique, Robin Rivaton ?
C'est un débat politique dans lequel le politique n'intervient pas. Donc on laisse le pouvoir confier effectivement au juge ou alors dans d'autres domaines, parce que ce domaine de la bioéthique renvoie à d'autres considérations. Récemment sur l'euthanasie, on renvoie à des experts, que ce soit des magistrats, que ce soit des médecins, qui prennent le pouvoir sur le politique, et donc il n'y a pas d'expression à volonté. Vous nous parliez de sondages, les sondages n'ont aucune valeur. Je suis désolé, c'est parce qu'un sondage qui est mal interrogé peut dire qu'ils sont pour ou contre, d'ailleurs, c'est pas la question. La question, c'est un gouvernement qui engage sa responsabilité démocratiquement élu, qui dépose un projet de loi ou une proposition de loi pour qu'on ait cette pratique ou pour l'autoriser. disait.
Mais elle est déjà interdite.
C'est parce que c'est autorisé à l'étranger et donc on va légaliser alors que c'est interdit chez nous.
Mais je n'ai pas dit qu'on légalisait. Je suis en train de vous expliquer que la décision de la Cour de cassation ne va pas légaliser la gestation pour autrui. Bah alors donc ne confondez pas les choses.
Le contournement autorisé.
Vous ne pouvez pas.
Le contournement autorisé revient à une autorisation.
Vous ne pouvez pas dans un monde, dans un monde où il y a une liberté de circulation des individus. Mais non, c'est une chose la drogue. C'est une chose la drogue. Ce n'est pas la même chose.
Ah bon. Je voulais entendre Jérôme Béglé sur ce point.
J'ai pas d'avis. Il y a une chose qui m'étonne. À partir du moment où une pratique est interdite en France, l'autoriser à l'étranger et après l'assimiler à notre droit en disant c'est interdit en France.
Qu'est-ce que vous faites des enfants?
Non, mais le droit de l'enfant, il faut quand même.
Qu'est-ce que vous faites des enfants qui sont concrètement là? Qu'est-ce que vous en faites?
Je vais prendre un exemple qui va tout vous faire monter au plafond et après, comme ça, je vous répondrai pas à ce qu'il faudra passer au titre. La pédophilie est interdite en France. Si on fait un voyage pour aller en Asie et qu'on fait.
Eh bien, c'est punissable en France. C'est punissable en France. Voilà. Ça, c'est punissable en France. Absolument, voilà. Parce qu'il y a des textes qui le permettent.
Et ben voilà.
Mais ce n'est pas la même chose.
La GPA est interdite en France, on va la faire à l'étranger, on revient avec son enfant.
Ce n'est pas punissable en France.
Parce qu'il est 20h45 sur France Info.
On en reparle dans 10 ans, vous verrez.
Les titres, Armand Perulogha.
Maintien en détention confirmé pour Dylan Roof, l'auteur présumé de la tuerie de mercredi soir dans une église de Charleston en Caroline du Sud, église fréquentée par la communauté noire. Le jeune homme de 21 ans est inculpé pour 9 meurtres, des meurtres qu'il a avoués aux enquêteurs. En France, la chute mortelle d'une jeune fille de 12 ans hier soir sur le tournage de l'émission Le Monument préféré des Français sur France 2. Pour une raison encore indéterminée, elle a chuté d'une trentaine de mètres alors qu'elle était encordée au phare du Cap Ferry. Peut-être une avancée pour les parents dont les enfants ont été conçus par GPA. Le procureur général recommande d'autoriser ces enfants à être inscrits à l'état civil, mais sous réserve d'un test de filiation. La Cour de cassation se prononcera le 3 juillet. Un procès début 2016 pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre est renvoyé en correctionnel pour fraude fiscale et blanchiment. En cause, son compte caché en Suisse. Sa femme Patricia sera également jugée l'an prochain. Et puis la Grèce appelée à faire des concessions pour éviter un défaut de paiement fin juin, appel lancé aujourd'hui par la France, l'Union européenne et le FMI. Un sommet européen extraordinaire est prévu lundi sur la dette grecque.
20h-21h, les informés, Philippe Duport.
Les informés de France Info avec Caroline Mécari, avocate, François-Xavier Bellamy, prof de philo adjoint au maire de Versailles, Jérôme Béglé du Point et Robin Rivaton du think tank Fondapol. Et pour ce dernier quart d'heure dans les informés, on va parler de ça. Oui, vous avez reconnu I'm Still Loving You, Jérôme Béglé, vous avez reconnu I'm Still Loving You, le tube des Scorpions. Ils sont au Hellfest à Clisson, près de Nantes. Il y a aussi Motorhead et Billy Idol qui fait son grand retour ce soir et demain. Donc Clisson, en Loire-Atlantique, devient la capitale du métal et du hard. Et ça n'est pas fini puisque toute la France va enchaîner avec la fête de la musique, la 34e du nom. Alors c'est au choix, à vos guitares ou à vos bouchons d'oreilles. C'est le plus grand festival du monde, affirme Jack Lang. Mais ça n'est pas forcément, il le reconnaît lui-même, pas forcément le meilleur. Même si on vient de l'apprendre, Paul Naref sera à Montluçon samedi. Et ça, c'est l'événement. Alors on dit souvent qu'on ne sait plus faire la fête ensemble, qu'on ne sait plus vivre ensemble. La fête de la musique, est-ce qu'elle nous prouve le contraire, Jérôme Béglé?
Oula, dites-moi, c'est philosophique, ça ferait presque demander.
Bon,
c'est très bien, une fête de la musique, j'ai rien contre, évidemment. J'aimerais que chaque place de village ait Scorpion et pour fredonner Still Loving You.
Et Michel
Polnareff. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est parfois un peu la fête du bruit, plus que la fête de la musique. Est-ce qu'on fait plus la fête en France? Oui, c'est vrai, mais moi, ce qui m'énerve, c'est ce côté. Allez, le 21, vous descendez tous dans la rue, alors le 20, vous vous couchez tôt, le 22, vous vous couchez tôt aussi, mais le 21, celui qui est pas dehors à 3h du matin, c'est vraiment. C'est un mauvais français, qu'il n'est pas festif et que c'est un rabat-joie. Voilà, je trouve ça plutôt sympathique cette fête de la musique. J'ai rien pour, rien contre. Je voudrais pas que ça devienne cette espèce de grand truc qui politiquement exalte une jeunesse et un jeunisme qui me fatigue un petit peu, même si je suis encore jeune, je crois.
Alors Romain Rivaton, c'est un bon ou un mauvais signe sur la société française? Est-ce qu'on a besoin de dates, de grand-messes comme ça pour se réunir, ou est-ce qu'au contraire le succès prouve qu'on aime se réunir?
Si on est en train de se poser la question de savoir si la société française va mal parce qu'elle organise une fête de la musique, c'est qu'on a un problème identitaire quand même assez profond.
Encore plus sérieux que ce qu'on croit.
Non, je pense que honnêtement, Dieu sait que je suis pas un grand défenseur de la dépense publique quand elle est mal utilisée, mais alors là, pour le coup, c'est quand même quelque chose, un événement plutôt sympathique qui ne coûte pas trop cher aux dépenses de l'État et qui est plutôt bien organisé, qui crée effectivement des possibilités de rencontres, qui permet aux gens de se voir, qui vit aussi sur une sphère associative très large. Hein, c'est pas la fête de la musique avec des gens qui s'agglomèrent juste pour ça une fois par an. En général, c'est des orchestres, des équipes de musiciens qui se voient toute l'année et qui en profitent pour, à ce moment-là, faire partager leur talent ou leur moindre talent, hein, en fonction des talents des uns ou des autres, aux passants. Et donc, honnêtement, je pense que c'est plutôt une très bonne chose et autant garder des traditions comme celle-ci.
François-Xavier Bellamy ?
Oui, la fête de la musique, c'est un moment toujours intéressant aussi pour découvrir les talents des Français et leur variété et leur diversité. Donc, je crois que ça nous conduit aussi à quelques réflexions peut-être de plus grande ampleur. Et l'une d'entre elles, je crois, c'est que cette année, il faut que les Français aient bien conscience que si nous avons en France des talents et des richesses musicales à partager, c'est aussi grâce à la qualité de notre tradition musicale et de notre enseignement musical. Et cette année, vous l'avez peut-être vu, les conservatoires à rayonnement régional et départemental se sont vus retirer purement et simplement la totalité de leurs subventions par l'État. On voit que fondamentalement, si on veut garder une musique qui soit au-delà du caractère un peu divertissant de la fête de la musique, qui soit aussi une proposition musicale de grande qualité, on pense par exemple aux orchestres de Radio France, eh bien ça suppose qu'on sache continuer à investir dans la culture et dans la musique pour pouvoir porter justement à l'avenir une tradition musicale variée. Tous ceux qui aujourd'hui font des musiques nouvelles, on le voit bien d'ailleurs à Versailles, qui a une grande tradition avec les musiques nouvelles, de la Versailles Touch, de la French Touch, tous ceux qui aujourd'hui rayonnent dans le monde entier, Phoenix, Air, Daft Punk, etc., ils ont d'abord reçu une formation musicale classique de grande qualité, et je crois que c'est aussi une des conditions pour notre tradition musicale et notre créativité à l'avenir.
Caroline Mécari, vous êtes avocate, mais vous êtes aussi, je dois le dire, conseillère régionale en Île-de-France. Sur le terrain, c'est pour vous, politique de terrain, c'est quelque chose de fondamental, la fête de la musique. Grand rendez-vous.
Oui, non, c'est effectivement un événement qui est important, mais comme pour n'importe quel citoyen, en tout cas, c'est la possibilité d'être ensemble, c'est la possibilité de partager autour de quelque chose qui nous permet souvent de communier, même que ce soit d'ailleurs avec des gens, enfin des musiciens ou des chanteurs connus ou pas connus. La question soulevée par Monsieur Bellamy est très juste. Dans tous les domaines culturels, sportifs, etc., à tous les niveaux, localement, nous souffrons tous. Tous les citoyens souffrent véritablement de la politique d'austérité qui est le choix fait par le gouvernement de François Hollande, choix qui, à mon sens, est tout à fait contestable. Mais les collectivités territoriales n'ont pas le moyen de s'opposer à ces baisses budgétaires qui font passer, la gestion comptable, les comptes publics avant l'humain. Or, je pense que c'est vraiment une erreur d'aiguillage.
Robert Yvaton.
Oui, alors relier l'austérité fête de la musique, c'est très fort, bravo. Hein. L'austérité en France n'existe pas, arrêtons d'utiliser ce mot.
Alors, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Hein.
Je vis en France, excusez-moi. Alors là, on l'austérité n'existe pas en France. L'État va dépenser 80 milliards de dépenses de déficit public cette année. Si vous pensez que l'humain doit passer avant le réel, l'humain, ce sont les générations futures. Et quand vous vous endettez de 80 milliards par an, vous laissez à vos enfants ou à des enfants nés sous GPA 80 milliards de dettes à venir.
Vous raisonnez comme un particulier.
C'est les gens qui aiment écouter la musique au temps présent. Moi, je pense aux enfants demain, ils payeront.
Vous raisonnez comme un particulier. Or, un État n'est pas dans la même situation qu'un particulier. Bon. Et faire de la dépense publique, c'est de l'investissement. C'est l'investissement sur la recherche. C'est l'investissement dans la culture. C'est l'investissement dans l'éducation. C'est-à-dire, c'est la richesse de demain. Et non pas une dette qu'on va devoir supporter.
On va continuer à parler de la fête de la musique et de vos conceptions différentes. Mais pour l'instant, il est 20h53 sur France Info. Les titres, Armand Perulogha.
Un gymnase occupé par une centaine de migrants ce soir dans le nord de Paris. Des migrants aidés par des militants. Ce matin, ils avaient été évacués d'un jardin du 18e arrondissement. France 2 interrompt le tournage de son émission Le Monument préféré des Français après l'accident mortel d'une jeune fille de 12 ans au Cap Ferret. Hier soir, elle a chuté de 30 mètres lors d'une acrobatie sur le phare. Les causes exactes du drame ne sont pas encore connues. Peut-être une évolution de la législation dans le dossier de la GPA. PPA, le procureur général de la Cour de cassation se dit favorable à l'inscription à l'état civil des enfants nés à l'étranger de mères porteuses, mais sous certaines conditions, conditions d'un test de filiation biologique du père. La Cour de cassation se prononcera le 3 juillet. Et puis l'inquiétude de centaines de milliers de Grecs au lendemain d'un nouvel échec des négociations entre Athènes et Bruxelles à propos de la dette du pays. Les Grecs retirent de l'argent des banques. Un nouveau sommet européen est prévu lundi.
20h-21h, les informés, Philippe Duport.
Alors François-Xavier Bellamy, on va continuer avec vous de parler de la fête de la musique. Les titres vous ont interrompu dans votre élan, là vous étiez, vous brûliez d'intervenir dans ce débat.
Oui, non, je crois que ce qui est tragique, c'est que nous subissons la situation économique et que nos politiques sont incapables de faire de vrais choix ou de proposer une grande vision. Et c'est vrai que du coup, on en arrive à cette situation catastrophique où on va couper brutalement des dépenses qui pourtant sont décisives pour notre avenir. Et je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là. Je crois pas non plus qu'on puisse parler d'austérité, mais c'est vrai que malheureusement, on voit bien, et je travaille avec un député maire, François de Mazières, et avec lui, on vit chaque jour sur le terrain cette réalité. La baisse des dotations pour les collectivités, l'augmentation des péréquations, fait que concrètement, nous sommes presque acculés à abandonner pourtant des dépenses, des pans entiers de l'action publique qui sont pourtant parfois les plus décisifs pour préparer l'avenir. Et la culture, évidemment, en fait partie quand on voit la situation actuelle de notre pays et cette inquiétude qu'on a si souvent mentionnée ce soir autour de notre avenir commun.
Jérôme Béglé.
Je vais encore une fois mettre les pieds dans le plat. C'est vrai qu'on vit pas en austérité. Demandez aux Grecs ce qu'est l'austérité, demandez aux Argentins dans les années 80-90 ce qu'est l'austérité, et c'était autrement plus difficile à vivre que ce qu'on a en France aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai que l'État parisien a un peu trop tendance à faire porter sur les collectivités locales et les économies qu'il ne fait pas vraiment. C'est vrai que les subventions accordées pour la culture ou pour le sport, qui sont quand même, je prends ces deux exemples parce que c'est ce qui sur le terrain irrigue le plus les populations, des jeunes ou des retraités, jeunes pour le sport plutôt retraités pour la culture, et ce sont des populations qu'il faut absolument pas laisser.
L'opposition est un peu schématique.
Non mais je caricature un petit peu, mais c'est vrai que les collectivités locales investissent énormément dans des associations à but culturel ou à but sportif. Bon, on peut pas dire le contraire. Et que ce sont les premières économies qui sont faites par ces collectivités et que ça permettait jusque-là de structurer un corps social et que ça le déstructure un petit peu. Là, je suis entièrement d'accord. Après, je pense que dans les collectivités locales aussi, il y a des dépenses superflues qui peuvent passer à l'as.
Au final de ces coupes budgétaires, c'est des emplois aussi en moins, des entreprises qui n'ont pas de marché, par exemple, Robin Rivaton.
Et là, on parlait d'associations. Donc, il y a énormément d'associations en France qui fonctionnent très bien sans allocation, sans subvention de la part des collectivités publiques. Ils se débrouillent, ils vivent avec des moyens propres et ils développent des activités. Et ça ne les empêche pas de développer des projets très intéressants parfois. Sur la question des entreprises, évidemment, si vous mettez l'argent, l'euro de dépenses publiques qui existe, il va dans la poche de quelqu'un. Il finit dans la poche de quelqu'un à la fin, ça c'est sûr. Il ne disparaît pas dans un circuit économique. Il n'empêche que cet euro de dépenses publiques, à la fin, il sert moins que la future dette qu'il va représenter pour les gens de la génération future, les générations à venir. Et donc c'est catastrophique, ça crée des effets très mauvais pour la situation économique, ça a un effet négatif sur la croissance. Juste pour reprendre, effectivement, la France ne vit sûrement pas en austérité, elle vit en mauvaise gestion. Et passé le rabotage, il y a des rapports entiers sur la façon dont la France rabote ses dépenses publiques plutôt qu'elle ne fait des choix. C'est une catastrophe. France Stratégie a fait un rapport là, il y a deux mois là-dessus pour nous dire qu'à quel point on était les plus mauvais parce qu'on faisait que du rabotage et on ne faisait jamais des choix forts de politique publique. Donc on met de l'argent de partout. Il n'empêche que faire des choix, c'est faire des coupes budgétaires à certains endroits et ça, on n'y échappera pas parce que c'est une nécessité de revenir à l'équilibre. Et en même temps, ça n'empêche pas de créer de la richesse avec d'autres moyens qui existent, notamment libérer le marché du travail.
Caroline Mécari.
Écoutez, moi je pense que... Enfin, très simplement, parlons deux secondes de la Grèce. La Grèce, elle est endettée.
On est loin de la fête de la musique,
quoi. Non, oui, malheureusement, mais bon, quand même. Il y a 5 ans, donc, la Grèce a été mise sous tutelle, avec une dette représentant 121% de son PIB, des coupes budgétaires absolument considérables, une paupérisation de la population considérable. 5 ans plus tard, la dette n'est pas remboursée, elle représente 170% de son PIB, et tout le monde sait très bien qu'elle ne peut pas rembourser. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les politiques budgétaires, qui sont uniquement des politiques comptables qui visent à réduire la dette sont des politiques qui nous mènent droit dans le mur. Et penser comme vous pensez, Monsieur Rivaton, c'est vraiment penser comme un TINA, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre alternative. C'est vraiment
un TINA,
there is no alternative, c'est-à-dire le thatchérisme, et on voit ce que cela a donné comme résultat. Ce n'est pas un résultat très brillant. Et donc, voilà, c'est ça que je pense fondamentalement.
Ouais, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que vous avez des pays comme le Portugal qui est en train de rembourser de manière anticipée. C'est des pays, vous le savez peut-être pas, mais l'espérance de vie d'un Portugais est inférieure à celle d'un Grec. Alors, ça vous touche pas, on s'en moque de ça, parce que le Portugais, c'est quelqu'un de moins important que le Grec dans nos débats politiques en France. Il n'empêche que ces gens-là sont en train de rembourser, sont en train d'avancer, sont en train de recréer de l'emploi dans tous ces pays du Sud. La situation de la Grèce dont vous parlez, depuis 5 ans, la Grèce, effectivement, va très mal. La Grèce est un des pays qui a augmenté son niveau de vie depuis 2002. L'Italie a perdu 10% de son niveau de vie depuis 2002, depuis qu'ils sont entrés en l'euro. J'ai entendu un Italien se plaindre de ça.
Merci.
Parlons musique.
On est loin de la fête de la musique. À noter d'ailleurs que pour la fête de la musique, la maison de la radio, Autopromo, propose un marathon de 25 heures de concert pendant tout le week-end, du rock à la musique classique. Merci beaucoup Caroline Mécari, avocate. Vous êtes auteur notamment de L'amour et la loi aux éditions Alma. François-Xavier Bellamy, prof de philo, adjoint au maire de Versailles, auteur de Les déshérités, le pouvoir de transmettre, c'est chez Plon. Robin Rivaton, membre du think tank Fondapol, auteur notamment de La France est prête, nous avons déjà changé, aux éditions Les Belles Lettres. Et puis Jérôme Béglé, du point, votre couve qui est déjà sortie, qui est déjà en kiosque.
Sarkozy, à la fois la droite contre Sarkozy, ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi il est sûr de gagner, ce que son camp dit de lui en off. Où est le David Cameron français? C'est un grand dossier d'une vingtaine de pages sur la droite aujourd'hui, les droites aujourd'hui.